Bonjour et bienvenue sur Monnaie Libre. Aujourd'hui, eh bien, émission spéciale, on retrouve le fondateur de Monnaie M, la monnaie à revenu de base, la monnaie à dividende universel, avec Mérôme. Bonjour Mérôme.
Bonjour.
Alors, je voulais te revoir dans cette émission qui va être en deux parties, parce que je pense que c'est un bon moment pour faire un petit point sur Monnaie M, ce qu'on fera donc dans la deuxième partie, qui sera sans doute la plus importante, la plus grande. Mais il y avait aussi un autre point qui justifiait de refaire un Monnaie Libre avec toi en ce moment. D'abord parce qu'on est toujours content de t'avoir avec nous. Mais aussi parce que tu as produit récemment un post qui était un post de réaction, même si ça n'apparaît pas forcément dans le post, mais je crois que je l'avais vu que c'était une réaction à des remarques que tu avais faites sur les réseaux sociaux. Puisque tu as produit un post tout à fait pertinent et qui m'a semblé extrêmement bien mené. Tout est relatif, bon, expression très connue bien sûr, tout est relatif, mais là exprimé bien sûr sur la monnaie. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce poste? Pourquoi tu as fait ce poste et qu'est-ce qu'il contient?
Ouais, alors effectivement c'est un poste, donc un article sur mon blog que j'ai posté le 2 octobre dernier. Pourquoi j'ai fait cet article? Parce que en fait je me rends compte que dans les communautés que je fréquente, les communautés du logiciel libre, les communautés, les différents forums, blogs que je fréquente, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui, ou plutôt il y a très peu de monde qui arrive à comprendre l'aspect relatif de la monnaie, c'est-à-dire le fait que une monnaie n'a pas de valeur absolue. Et que forcément, la valeur de la monnaie dépend de la quantité de monnaie en circulation. Et donc, bon, je ne suis sans doute pas le premier à parler de tout ça, et tu l'as fait bien avant moi. Cela dit, je pense que c'est pas mal de chacun le formuler à sa façon, quitte à le formuler peut-être avec des erreurs et des incohérences, mais au moins le formuler différemment pour que d'autres personnes en rendent compte, en prennent conscience et l'intègrent à leur façon.
D'accord.
Voilà, donc le principe, voilà, tout le monde le connaît en tout cas pour les auditeurs de Monnaie Libre, j'imagine, c'est que effectivement la monnaie n'a de valeur que par rapport à l'ensemble de la monnaie et que donc si on s'escrime à vouloir donner une valeur absolue à l'unité monétaire, forcément, on pénalise tous ceux qui pensent différemment, aussi bien dans le temps que dans l'espace, c'est-à-dire tous ceux qui ont des besoins différents de ceux de leurs contemporains, eh ben, ils vont attribuer une valeur différente aux choses, et y compris à la monnaie, et dans le temps, évidemment, aujourd'hui, moi, il m'intéresse d'avoir une PlayStation, une télé ou des trucs comme ça. Il y a 100 ans, les mêmes besoins ne valaient rien du tout. Enfin, il y avait un ensemble de biens disponibles qui étaient complètement différents. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup moins d'avoir des bougies, des outils dont on se sert beaucoup moins aujourd'hui. Et inversement, les outils dont je me sers, quelqu'un du Moyen-Âge en avait absolument rien à faire. Donc voilà, le principe, il est là. Donc j'ai essayé de l'expliquer dans un post qui a eu finalement assez peu de succès, en tout cas au regard du nombre de commentaires qu'il y a eu. Mais voilà.
Oui, mais c'est pas parce que ça n'a pas de succès à un instant T que ça n'aura pas dans le temps plus tard.
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. En tout cas, oui. Je veux dire, j'ai pas eu à part tes commentaires à toi, j'ai pas eu de retour particulièrement sur ce poste-là. Je pense qu'il ne parle bien qu'à ceux qui ont déjà compris le truc. Donc, il a un petit peu raté sa cible en quelque sorte, mais voilà quoi. Donc, aujourd'hui, c'est pas un truc qui est spécialement visité et commenté sur mon blog.
Oui, alors, et ce problème de non-intégration de la relativité, comme ça, des valeurs économiques, et y compris donc de la monnaie, est-ce que tu le vois au-delà de ces forums-là que tu vois, ou est-ce que tu vois même chez les économistes ou ailleurs cette problématique-là sauter aux yeux quand tu les écoutes parler, ou est-ce que c'est quelque chose
qui te... Je crois que globalement, il n'y a pas grand monde qui qu'il formule en tout cas de cette façon-là. Peut-être qu'il y en a qui en ont l'intuition, mais je pense que tous ceux qui militent pour un revenu de base ont cette intuition-là sans forcément la formuler comme ça. Vraiment le décrire de la façon dont tu le fais ou dont je l'ai fait dans cet article-là, il y a finalement assez peu de monde qui le fait, que ce soit chez les militants de base qui n'ont pas de compétences particulières dans le domaine économique, que chez les économistes eux-mêmes, c'est pas quelque chose qui est formulé comme ça, en tout cas. Peut-être que c'est formulé autrement, puis que je suis pas capable de le comprendre autrement, mais en tout cas, je ne le vois pas beaucoup, et surtout, quand je le vois, quand j'ai vu que tu défendais cette idée-là devant Étienne Chouard, et puis je sais plus le nom de l'autre...
Jean-Baptiste Bersac.
Voilà, j'ai bien vu que c'est quelque chose qui n'est pas intuitif pour eux, alors qu'il me semble extrêmement intuitif pour moi. D'autant plus quand on s'intéresse un petit peu à la démocratie, quand on s'intéresse au logiciel libre, à la neutralité du net, ça m'interroge que ces communautés-là, qui sont par ailleurs très soucieuses de la réciprocité de tous les pouvoirs, de tous les... de tout ça, ça me surprend qu'ils ne comprennent pas plus vite. C'est quelque chose qui m'interroge. Donc c'est ça qui m'a conduit à faire ce poste. Donc il n'y a pas changé grand-chose à la donne, mais en tout cas c'était ma participation à ce débat-là.
Oui, alors il est assez bien mené ce poste, donc j'invite les auditeurs à le lire. Hein. Tout est relatif sur le blog de Mérome, hein, mérome.net. Hein. Vous avez sur son blog, vous faites une recherche, d'ailleurs tout est relatif. Il est assez récent, puisqu'effectivement, tu l'as publié en octobre. Et alors, aussi, tu parles dans ce poste, tu vas jusqu'au bout, parce que non seulement tu dis que, donc, in fine, bon, ben, elle n'a de valeur que relativement à sa globalité, relativement à la totalité de la monnaie en circulation, mais aussi tu dis que si donc, elle était dotée d'un dividende universel, plutôt que, par exemple, alors je te cite, hein, « Que m'importe de payer ma baguette de pain 10 000 euros si j'en reçois 20 millions par mois ?» C'est rigoureusement la même chose, toute chose égale par ailleurs, que de la payer 1 euro avec un salaire de 2000 euros. Pour simplifier l'affichage des prix, on peut les convertir en valeur relative, et donc effectivement dans ce cas-là, dans les deux cas, ben, on a le même prix. Que la baguette soit à 10 000 euros pour 20 millions par mois, ou 1 euro avec un salaire de 2000, et bien simplement la baguette dans les deux cas coûterait 0,002 dividende universel.
Alors il y a un truc aussi qui est très très difficile à faire comprendre, c'est le système de l'inflation et surtout le fait que l'inflation n'est pas forcément quelque chose de maléfique. C'est-à-dire qu'on a tous les économistes et particulièrement les économistes allemands ont en tête l'hyperinflation. Avant-guerre, et du coup...
Alors qu'ils n'étaient pas nés, d'ailleurs.
On n'était pas nés, on traite ça depuis des
années,
et du coup, l'inflation...
Oui.
Maintenant, si on essaie d'expliquer à quelqu'un que l'inflation, c'est pas grave, c'est quasiment impossible. Tout le monde nous dira que l'inflation, ça fait monter les prix, donc ça pénalise les plus pauvres, et puis voilà, il faut absolument pas le faire. Et donc, ce que j'avais fait aussi un autre post là-dessus que je cite dans l'article Tout est relatif, c'est que l'inflation, à partir du moment où on compte en relatif et qu'on a un dividende universel...
Ah oui, c'est important à dire quand même, parce que sinon, voilà, si on n'en a pas, c'est grave.
Ces deux conditions-là,
et bien sûr.
On n'en a plus rien à faire de l'inflation. La quantité de monnaie, le nombre d'unités monétaires va augmenter, et alors, il va rien se passer du tout. Si on compte relativement, on n'a aucun changement au fait d'avoir une inflation modérée, évidemment. Hein. Je ne parle pas d'une hyperinflation, mais une inflation modérée n'a aucune conséquence sur un système monétaire à dividende universel. Voilà. Donc ça, c'est aussi un truc que j'arrive pas à faire passer. Bon, peut-être que je me trompe, mais...
Alors, attention, parce qu'effectivement, ça va avoir des conséquences, mais pas pour les plus pauvres, en fait. S'il y a un dividende, s'il y a un dividende, c'est ça que vous... Non, mais il faut être précis, parce que c'est toujours pareil. S'il n'y avait pas de conséquences du tout, dans ce cas-là, autant rien faire. Mais la question, c'est pas, elle n'est pas là, c'est que dans une monnaie libre, bien sûr, à dividende, ben, en fait, bon, d'abord, en fait, la quantité de monnaie ne bouge pas, donc il n'y a pas du tout d'inflation. Mais on ne voit pas l'inflation parce qu'il y a un dividende. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le fait qu'il n'y en ait pas, que les inflations subies là où il n'y a pas de dividende, ben, fait qu'en fait, d'où elle vient cette inflation? De là, de certains hommes qui ont créé beaucoup plus de monnaie que les autres. Alors que dans une monnaie libre, c'est pas possible. C'est-à-dire, s'il y a plus de monnaie, c'est que ça vient forcément du dividende, donc c'est pour tous. Et forcément, bah, et disons que les conséquences sont pas les mêmes. Voilà.
Voilà. Je crois qu'il faut... Effectivement, l'inflation dans un système à dividende universel, elle va avoir tendance, en fait, à niveler les inégalités.
Voilà, à répartir.
Le plus riche va être proportionnellement moins riche, et le moins riche va être proportionnellement plus riche. Et ceux qui se trouvent au milieu, bah, ça va rien changer pour eux. En gros, on peut le résumer comme ça.
Ouais, exactement. Alors, un des trucs, justement, je pense que tu fais bien de parler de ça et de manifester cette difficulté à faire comprendre ce phénomène. Mais je crois que véritablement, le point le plus efficace et le plus profond à faire si on veut que des personnes puissent au moins être confrontées à ce problème de façon concrète, c'est le fameux jeu La Corbeille. Parce que ce jeu permet véritablement de simuler, alors bien sûr ça reste une simulation, mais on peut en plus faire varier les paramètres, on peut un peu faire bouger les règles, c'est un jeu très, très mobile, très souple. Mais essentiellement, avec un même jeu, on peut voir comment réagit l'économie et les gens qui participent d'une économie pendant par exemple 80 ans avec des règles identiques. C'est-à-dire qu'on a le même type d'économie avec des cartes qui représentent les interactions économiques, bon bref. Mais il suffit de changer le code monétaire, on fait plusieurs jeux avec des codes monétaires différents et on voit en quoi le code monétaire impacte le résultat final. Et ça, on le voit en jouant au jeu en direct. Donc là, ça élimine aussi toutes les réflexions. Il y a des gens qui sont réfractaires aussi, tout simplement, à la réflexion abstraite. Ils préfèrent avoir du concret. Donc ouais. ils sont pas à l'aise en lisant des textes. Ils sont pas à l'aise encore moins en lisant des maths. C'est normal que, par contre, ça puisse parler à des gens qui ont une pensée plutôt abstraite. Mais c'est normal aussi qu'il y ait des gens qui aient une pensée plus concrète, donc plus pragmatique. Et dans ce cas-là, c'est en jouant à un jeu comme ça, bon, ça reste une simulation, c'est pas l'économie encore dans sa partie véritable, mais ça s'en approche un peu plus, puisque là, on joue une certaine durée, on peut simuler les morts et les naissances, et on peut simuler des économies qui sont semblables dans leurs règles de fonctionnement, mais différentes selon la monnaie qu'on choisit d'utiliser dans ces jeux. Et là, véritablement, ça transforme véritablement les joueurs. C'est très net à chaque fois qu'on y joue. Moi, j'y ai joué deux fois, et c'est même trois fois j'y ai joué, en fait, avec la première fois où j'ai découvert le jeu. Et c'est clair que ça change le rapport même à l'économie, le fait d'y jouer, quoi.
Hein? Alors, on avait déjà parlé un petit peu de ça la dernière fois, enfin, pas du jeu de la corbeille, mais du fait que le jeu, sous toutes ses formes, permet effectivement d'appréhender les systèmes économiques assez facilement. J'avais parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, la dernière fois d'un jeu qui s'appelle Container.
Oui.
Voilà, il y a aussi un autre jeu qui permet de se rendre compte un petit peu de tout ça, c'est Boursicocotte, qui malgré son nom très enfantin est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Et effectivement, c'est des jeux où la masse monétaire évolue très peu ou qu'à certains moments. Et du coup, on se rend bien compte de l'impact de l'évolution de la masse monétaire sur l'ensemble du jeu. On commence avec des très petites sommes. On achète les produits qui sont à vendre dans le jeu avec des très petites sommes parce qu'au début, il y a très peu de masse monétaire. Et puis, au fur et à mesure des événements du jeu, on va avoir des injections de masse monétaire, des injections de monnaie à certains endroits, à certains moments. Et on se rend compte qu'effectivement, ça fait monter les prix, mais qu'on n'est pas... proportionnellement plus riche ou moins riche, c'est juste les valeurs qui ont un petit peu changé. Et c'est assez intéressant de se rendre compte de ça à travers le jeu, parce qu'effectivement, c'est plus ludique qu'un théorème de maths, hein, évidemment.
Oui, excellent. Donc alors ces deux jeux, hein, tu peux nous rappeler, Container et Boursicocotte.
Container, ouais. C'est un jeu qui, je crois, n'est plus édité. Par contre, on peut encore peut-être le trouver d'occasion. Donc c'est un jeu de société assez compliqué, qui dure 2 heures de temps, donc c'est à réserver aux adultes. Hein. Je crois que l'éditeur c'était Valley Games.
Ouais.
Mais bon, je crois qu'on avait mis le lien l'autre fois vers la fiche Trick Track, où voilà. Donc on peut trouver ça quand même assez facilement. Et puis l'autre jeu, ça s'appelle Boursicocotte. C'est une place de
Boursicocotte.
marché pour des animaux de la ferme. Et du coup, voilà, on a de temps en temps une injection monétaire qui change tous les prix. Mais entre deux injections monétaires, les joueurs se partagent ce qu'il y a. Et du coup, quand on n'a plus rien, ben, on ne peut plus rien acheter. Et c'est là que ça devient difficile.
Voilà, et alors peut-être il nous manque aussi pour l'instant. Alors, il existe hein, des versions de Monopoly-like, hein, de quasi-Monopoly sur le net. Notamment, il y a un site que je vous conseille fortement, qui est vraiment bien si vous voulez tester le Monopoly. Ça s'appelle Playhockey, playhockey.com, je crois bien, Playhockey, ou .net, je sais plus. Enfin, bon, Playhockey, vous essayez, Playhockey, tout en un seul mot. Je crois que c'est un site polonais, on peut jouer à plein de jeux, notamment il y a une version, alors c'est pas vraiment Monopoly parce qu'il n'y a pas les noms des terrains, etc. etc. mais ça quand même ça ressemble. Et bon alors évidemment le problème de Monopoly on le connaît, c'est que les prix sont fixés au départ et montent exponentiellement avec la construction alors que la monnaie ne suit pas, hein, puisqu'on a toujours ces 20 000 par tour et c'est pas proportionnel dans le temps, ça n'augmente pas dans le temps, donc on finit par tomber en faillite. Mais c'est quand même intéressant. Et il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a même pas. Enfin, moi, je ne connais pas de jeu sur le net à multijoueur, comme ça, où on peut tester des simulations. D'ailleurs, une simulation de informatique du jeu La Corbeille serait sans doute extrêmement profitable à des joueurs qui voudraient, comme ça, tester différents codes monétaires sur un même jeu, ou quelque chose de similaire. Mais bon, ça viendra peut-être. En attendant, il y a bien sûr les projets de monnaie libre. Alors, voilà, bon, écoute, je crois qu'on va arriver à notre première partie finie. On va faire une petite pause musicale si tu veux bien, puis après on va parler de Monéem dans la deuxième partie, Mérôme.
D'accord, très bien.
Alors, donc, petite pause musicale hein, pour cette monnaie libre spéciale Mérôme, spéciale Monéem. Je vous laisse tout de suite avec donc une musique libre sur monnaie libre et à tout de suite.
Thank you.
Et nous voici de retour donc dans Monnaie Libre après cette pause musicale avec toujours avec Mérôme. Donc alors cette deuxième partie hein, après avoir parlé de façon assez générale hein, de relativité dans la première partie notamment suite à ton post tout est relatif. Et on va faire maintenant le bilan de Monnaie M Mérôme. Alors Mérôme on va rappeler hein, tu es le fondateur donc d'une plateforme de monétaire et d'échange qui s'appelle Monnaie M. Alors tu peux nous raconter peut-être un peu ce qui se passe maintenant depuis donc mars 2013, hein, un an et huit oui. mois maintenant que ça tourne. Qu'est-ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui? Je crois avec aujourd'hui maintenant près de 500 membres.
C'est ça. Donc juste pour rappeler qu'est-ce que c'est que Monnaie M, parce que peut-être que tous les auditeurs ne le savent pas. Donc c'est une plateforme d'échanges entre particuliers du type Le Bon Coin ou Price Ministère avec une monnaie associée, donc une monnaie propre au site qui est associée à la plateforme d'échange. Et donc c'est un outil que j'ai développé et mis en ligne en mars 2013 qui compte aujourd'hui effectivement 494 utilisateurs exactement, donc on approche des 500. Et donc le principe, c'est que tous les utilisateurs se voient crédités de 50 unités de monnaie. Donc la monnaie, elle s'appelle le M. Donc on a 50 M au démarrage. Et ensuite, chaque mois, on reçoit un revenu de base, enfin un dividende universel, qui dépend de la masse monétaire totale. Donc c'est 0,8% de la masse monétaire totale divisé par le nombre d'utilisateurs. Donc qui correspond en fait à, enfin en tout cas ce qui est compatible avec la TRM. Donc cet outil a été mis en place en mars 2013 et donc les gens se le sont appropriés petit à petit. Alors toujours pas assez suffisamment selon moi, mais j'ai pas beaucoup le temps non plus d'en faire la promotion, donc j'en profite ici pour en faire à nouveau la promotion. Donc c'est un outil évidemment gratuit, libre. J'ai publié le code de Monnaie M. Pas au tout début, parce que au début j'en avais trop honte, mais je l'ai un petit peu amélioré et je l'ai ensuite publié. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas été pensé à la base pour être travaillé collaborativement, c'est-à-dire que voilà, le code n'est pas commenté, il n'est pas forcément très portable non plus, il n'est pas forcément très bien programmé non plus, parce que je ne suis pas un spécialiste de la programmation web. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne, dont le code est libre et donc qui n'a vraiment aucune arrière-pensée lucrative. Hein. Je fais ça sur mon serveur personnel, ça me coûte de l'argent plutôt que de m'en rapporter. Et donc l'objectif, c'est d'expérimenter ce que pourrait être une monnaie libre au sens de la TRM, c'est-à-dire donc dont le code est libre et avec un dividende universel qui dépend de la masse monétaire. La seule entorse qui est faite entre guillemets à la TRM, c'est le côté centralisé de l'outil qui fait que voilà, c'est moi qui ai le code sur mon serveur, c'est moi qui ai la base de données, elle est centralisée et du coup je pourrais potentiellement profiter de cet avantage pour mes besoins personnels, et donc c'est pour ça que ça ne reste qu'une expérimentation qui n'a pas d'autre ambition que de faire connaître et de faire tester aux gens ce que c'est qu'un dividende universel.
Alors je vais mettre un petit bémol sur ce que tu viens de dire, oui. C'est pas du tout contradictoire avec la TRM, attention. Oui. Le code, la TRM ne dit rien sur le code logiciel ou même la façon d'implémenter une monnaie libre. Qu'on la fasse sous forme de papier, sous forme centralisée ou pas décentralisée, la TRM ne dit rien là-dessus. Simplement, quand on connaît les logiciels libres, la dimension de la nature des logiciels, etc., on sait qu'il vaut mieux pour tout système qu'il soit, si possible, à la fois libre et décentralisé. Mais je dirais que c'est indépendant, c'est pour ça que je fais toujours la différence, c'est indépendant du code monétaire. Le code monétaire est une chose, la façon de le mettre en œuvre en est une autre. En pratique, c'est sûr que si c'est centralisé, on peut voir tout de suite que les problèmes peuvent arriver. C'est la différence qu'on peut voir entre un Twitter, Facebook et un Diaspora. Quand on réfléchit, Diaspora est libre et décentralisé comme réseau social, ce qui n'est pas le cas de Facebook et Twitter qui appartiennent à des entreprises qui justement font une utilisation des données, font de la de la rétention d'informations, voire même de la censure, etc., etc. Bon, ce qui est plus difficile à faire sur un réseau P2P décentralisé. Mais c'est, il faut séparer les deux sujets. Hein, voilà. Donc, en termes de code monétaire, c'est correct. Alors bon, l'Ethereum, bon, normalement le crédit de base, il est discutable, mais en fait, comme il est fixe dans le temps, il finira par, si ça continue longtemps, il finira par par devenir négligeable. Donc voilà. Donc à long terme, en fait, on a une convergence vers l'Ethereum. Disons que c'est très proche de l'Ethereum. C'est pas exactement l'intérêt. L'intérêt dit que normalement la monnaie devrait être créée que par un dividende universel et pas y compris avec une monnaie qui serait pas le dividende au début. Parce que si on fait des calculs mathématiques, c'est pas tout à fait la même forme, mais c'est très proche. Voilà, c'est deux formes. C'est comme si on avait un carré avec un bout du un bout des coins qui serait un peu arrondi, quoi. Hein, voilà. Donc
ouais. Voilà, donc depuis bientôt 2 ans, donc pas tout à fait encore, on a distribué. Donc 50 M à chaque utilisateur, plus pour l'instant le dividende universel il s'élève à 1 M, hein, puisqu'on est on a une masse monétaire encore assez peu élevée. Donc tous les mois, chacun des utilisateurs pardon, reçoit 1 M, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à une masse monétaire totale de 31 375 M. Donc toutes ces informations, évidemment, elles sont publiques. Tout le monde sait quelle est la masse monétaire, quel est l'état de son compte, évidemment. Et puis, on a un solde moyen qui est aujourd'hui à 63,51 M. D'accord. Donc, les 494 utilisateurs ont en moyenne aujourd'hui 63 M sur leur compte. C'est-à-dire que par rapport aux 50 M qu'ils avaient au départ, ben, ils se sont enrichis de 13 M en moyenne. Alors, évidemment, certains ont énormément vendu et donc ont récupéré plein de M. Et puis d'autres ont énormément acheté et n'ont presque plus rien sur leur compte. Donc ça, c'est le jeu du marché. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un système à dividendes universel qu'il n'y a plus de riches et de pauvres. Hein. Celui qui travaille beaucoup ou qui vend beaucoup de choses, il va être plus riche que celui qui ne fait qu'acheter, évidemment. Ça ne change pas. Mais ces inégalités vont se gommer au fur et à mesure. Elles vont surtout être justifiables. Justifiables par le travail ou les efforts qui ont été faits par les personnes.
Alors ceci dit, évidemment, ce que tu viens de dire avant est discutable d'un point de vue strictement économique, parce qu'évidemment, si j'ai acheté, j'ai moins de M, mais j'ai récupéré une valeur. Donc en fait, théoriquement, le bilan oui. est censé être nul. C'est-à-dire que la masse monétaire ne fait que marquer effectivement le différentiel entre deux personnes.
Oui, je parlais évidemment de la richesse monétaire.
Monétaire, voilà.
Ça ne présage en rien de la richesse matérielle qu'on a pu avoir en retour.
Ou immatérielle.
Donc on a aujourd'hui 193 annonces, c'est-à-dire qu'il y a 193 biens qui sont mis en vente, oui. entre guillemets. Et ces 193 annonces, elles proviennent de 80 utilisateurs. Donc ce qui est intéressant là de voir, c'est que sur les 500, presque 500 utilisateurs de monnaie M, il y en a moins d'un cinquième, il y en a 80 seulement, qui proposent quelque chose. Ça veut dire que les 420 autres sont là juste pour, en tout cas à l'instant T, hein, évidemment ça peut varier d'un jour à l'autre, mais les 420 autres ne sont que consommateurs, entre guillemets. Depuis le début de l'expérience, on a une centaine de personnes qui ont déjà posé au moins une annonce. Voilà. Et puis, on a eu près de 300 transactions effectuées entre les membres. Donc, comment se passe la transaction? Une fois que j'ai identifié une annonce qui m'intéresse, je demande à son propriétaire s'il veut bien faire l'échange avec moi. Il est libre de refuser, évidemment, parce qu'entre-temps, peut-être qu'il a vendu son bien par ailleurs ou il veut plus s'en séparer et puis il avait oublié de mettre à jour son annonce. Donc je lui demande s'il veut bien me vendre son bien ou son service. Et s'il accepte, eh bien, soit l'échange se fait de la main à la main, quand on n'est pas trop loin, comme je sais qu'il y a beaucoup de Toulousains sur Monem, j'imagine que sur Toulouse, ils vont plutôt pratiquer l'échange de la main à la main. Ou alors, on va faire un échange à travers la poste, hein, avec une livraison. Et du coup, la livraison, elle peut être ou pas, elle peut faire l'objet d'un frais de port supplémentaire, en M, toujours. Et ensuite, une fois que la transaction est validée, donc une fois que j'ai reçu mon bien, je vais pouvoir mettre une note au vendeur, ce qui permet d'avoir un barème de réputation en fait des vendeurs. Donc je vais savoir pour tel vendeur, il a fait tel un certain nombre de ventes et il a été noté de telle façon par ces personnes, par les personnes qui lui ont acheté des biens.
D'accord.
Donc ça permet d'avoir un système de réputation et puis une certaine garantie relative, évidemment, mais une garantie relative de ne pas tomber sur quelqu'un de malhonnête.
D'accord. On ne fera pas dans l'émission parce qu'il y a des choses qu'on pourrait dire sur l'amélioration de l'honnêteté, on ne le fera pas, il y a un forum pour ça, si ça vous intéresse d'avoir des idées, il y a plein d'idées à faire. Bon, on pourrait parler du fait que là, la monnaie est liée à une plateforme d'échange, par exemple, c'est pas le cas du Bitcoin qui est à part, et puis on crée les plateformes d'échange une fois que le Bitcoin est lancé, ce qui fait que la monnaie est vraiment indépendante, mais c'est des problématiques qu'on se pose sur le forum. Je vais juste te dire deux choses, et puis je vais te poser une question. Donc sur le forum, je vais vous dire simplement tout ce qu'on voit à l'écran qui me semble essentiel pour parler d'une monnaie libre, sans quoi on n'a pas vraiment de monnaie libre, et c'est ça qui compte. Il y a le solde de son compte, la masse monétaire totale, donc aujourd'hui 31 375 M. Alors si on regarde le prix des biens, on peut considérer aujourd'hui qu'un, je sais pas, un M vaut par exemple environ, je dirais, je sais pas moi, 1 euro ou 50 centimes d'euro, si on regarde les prix qui sont pratiqués. Donc ça veut dire qu'il y a entre 15 000 et 30 000 euros finalement de valeur qui existe sur Monnaie M en fait, mine de rien.
Oui.
Voilà, il y a 494 utilisateurs valides aujourd'hui. Hein, bien sûr, ils distinguent utilisateurs valides des utilisateurs non valides. Il y a un solde moyen aujourd'hui effectivement de 63,51. On voit que la masse monétaire moyenne est bien sûr augmente un petit peu au fil du temps. Puisqu'au départ, c'est 50, c'est ça, hein, 50 M par personne.
C'est ça.
Et puis la formule est explicitée. Voilà, comment le prochain revenu de base est calculé, c'est la partie entière, donc c'est arrondi hein, au degré supérieur, puisque comme on atteint 1 là aujourd'hui, c'est qu'en fait, effectivement, comme tu as choisi 1 M par mois comme base, on ne voit pas apparaître le pourcentage exact, disons, fin, quoi, mais bon, peu importe. Aujourd'hui, donc la formule, c'est celle-ci par mois, hein, ça fait 0,8%. Fois la masse monétaire, c'est-à-dire 31 375, divisé par le nombre de membres, 494, on fait le calcul, on obtient un peu moins de 1, donc on arrondit à 1, hein, sinon ça ferait 0, mais bon, il n'y aurait pas de revenu de base. Donc voilà, donc c'est arrondi à l'anti supérieur. Pourquoi 0,8%? Juste, je dis ça, c'est que si on fait 0,8% pendant 12 mois, on obtient à peu près 10%. Voilà, c'est 10% par an, c'est le taux approximatif qu'il faut atteindre selon les calculs de la TRM, donc c'est un taux tout à fait acceptable. Alors évidemment, si on tombait sur 15%, ou 7%, ça serait encore acceptable. Hein. Après, il y a une question de calibrage. Bon, c'est un petit détail. Mais c'est. Alors, après, je voulais passer à une autre question. C'est, tu as dit, et ça, ça nous intéresse aussi sur Monnaie Libre, bien sûr, qui lui-même est un podcast sous licence libre, qui aussi diffuse des musiques sous licence libre, qui s'intéresse à des logiciels libres. Et donc, comme tu l'as dit, Monnaie M est aussi donc une plateforme. Alors, je crois que c'est du PHP avec une base de données MySQL, c'est ça?
C'est ça, oui.
Voilà. Et donc, ça a été publié, je crois, sous GitHub, non? C'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc, alors, j'ai eu un peu d'aide par rapport à ça. J'ai eu deux développeurs qui sont un petit peu intéressés à la chose.
Oui.
Qui m'ont forcé, entre guillemets, à mettre le projet sous GitHub. J'avoue que je ne suis pas un utilisateur forcené de GitHub. Je n'ai que Monnaie M sur GitHub et je ne l'utilise pas au quotidien. Donc, j'ai eu principalement deux utilisateurs qui se sont intéressés à la partie développement de Monnaie M. Ça n'a débouché sur rien pour l'instant. C'est extrêmement difficile en fait de partager le code, surtout quand il n'a pas été conçu pour être partagé à la base. Moi, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas familier. Donc, la publication du code de Monnaie M, elle est là beaucoup plus pour valider le fait que c'est un logiciel libre et que j'ai pas d'intérêt particulier dans cette aventure-là que pour recueillir une communauté de développeurs qui améliorerait le produit au fur et à mesure. Donc il y a très peu d'améliorations, enfin très peu de développements qui ont été faits sur Monnaie M depuis un an et demi. Parce que j'ai pas le temps de m'en occuper plus que ça. Et puis, je pense que la stabilité du produit est plus importante que vraiment l'augmentation des fonctionnalités. Les fonctionnalités de base sont là. Elles permettent d'ores et déjà de s'échanger. Je vous ai dit, il y a eu 300 échanges de faits, donc ça fonctionne comme ça. C'est la libération du code, voilà, elle était juste pour valider le fait que c'était quelque chose qui n'était pas propriétaire.
D'accord. Donc voilà, donc pour l'aventure MoneyM, avec toujours des nouveaux inscrits qui arrivent régulièrement, et donc quelque chose qui permet effectivement donc ces échanges, et donc montrer que une monnaie libre, ça fonctionne. Les gens qui utilisent MoneyM, ont adopté cette monnaie pour ces types d'échanges-là, alors pas pour tous les échanges, vous voyez qu'on aussi, on peut...
Alors on peut dire peut-être un petit peu ce qui s'échange sur la plateforme, on a des jeux vidéo, des jeux de société, on a des DVD, des bouquins, on a un baptême de l'air en deltaplane, enfin voilà, on a aussi des propositions de chambres d'hôtes, d'hébergement un petit peu dans certaines villes. Voilà, donc si très concrètement, pour ceux qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore inscrits sur MoneyM, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez, sans autre formalisme, acheter avec les M que vous avez à votre disposition des annonces qui sont en ligne. Ça ne vous coûte absolument rien. Et puis après, moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est surtout à mettre eux-mêmes leurs annonces. On a tous dans nos greniers, dans nos bibliothèques, dans nos étagères, sur nos étagères, des trucs qui nous servent plus, qui n'ont plus de valeur pour nous, mais comme la valeur est relative, évidemment, pour d'autres personnes, ça peut être très intéressant. Là, par exemple, bon, la dernière chose que j'ai achetée, c'est un jeu pour PlayStation, voilà, j'ai mon fils qui joue à la PlayStation, donc je lui ai acheté Ridge Racer 7, je lui ai acheté ça hier, sur MoneyM, donc ça m'a pas coûté un seul euro, donc sans doute que la personne qui vend ça n'a plus aucun intérêt à ce jeu-là, parce qu'elle l'a terminé, parce que c'est un jeu qui est pas tout récent et qu'il est passé à autre chose. Même mon fils, lui, qui l'a jamais vu, ce jeu-là, il va y trouver son compte. Et du coup, gratuitement, en euros, en tout cas, je peux l'acquérir. Et puis, quand mon fils l'aura fini, je pourrai le remettre sur MoneyM pour qu'il profite à d'autres. Et on peut faire la même chose pour les livres qu'on a lus, pour les DVD qu'on a visionnés, et puis pour tout ce qu'on produit nous-mêmes et qu'on souhaite diffuser aussi. Ça, c'est important pour ceux qui sont producteurs, par exemple, moi à titre personnel aussi, à titre amateur, j'écris des bouquins. J'ai vendu énormément de bouquins sur MoneyM, alors qu'en euros, évidemment, ça ne se vend pas, puisque je ne suis pas connu, je ne suis pas dans les librairies, c'est de l'auto-édition, de l'auto-publication. Donc pour tous ceux qui produisent quelque chose, qui sont artistes, qui font de la musique, qui écrivent des bouquins, qui font des peintures, qui font des choses comme ça, ou des sculptures, eh bien, ils peuvent, en profitant d'une monnaie libre, accéder à un public, à une clientèle, entre guillemets, qui va être peut-être un petit peu moins regardante qu'avec les euros qu'il faut gagner à la sueur de nos fronts. Ici, les M, on va les gagner au fur et à mesure de son existence sur la plateforme, puisque le dividende universel va nous assurer une rente, entre guillemets, à vie.
Ou un minimum, disons, de capacité d'échange. On peut l'interpréter aussi comme ça, l'histoire de... Bon, plutôt qu'une rente, disons que voilà. Mais, alors, je vais citer quelques produits, là, qui me semblent vachement chouettes. Donc, je vais les citer, là. Là, je vois, aujourd'hui, donc, je vois, par exemple, quelque chose qui n'est pas matériel, cette fois-là. C'est une balade à vélo, en vélo électrique, partage d'expérience. La personne nous propose de partager avec vous une expérience de balade en vélo électrique pour 5M. Voilà. Alors, après, il faut aller sans doute je vais pas le faire, mais il faut aller sur l'annonce pour avoir plus de détails. Où c'est? Est-ce que le gars est à Paris, à Lyon? Je sais pas. Donc, ça faudra voir. Un autre truc qui me plaît bien, parce que moi, je suis un grand fan de Tarantino. Il y a le 4 DVD film, un coffret 4 DVD film de Tarantino. Vous voyez 4 films, 11 DVD. Pour 15M. Donc, vous voyez, un coffret de 4 DVD, Tarantino, moi, il faudrait voir le prix réel de ça, mais Bon, 15e, c'est-à-dire que le M, il vaut pas 0, quoi. Hein. Je veux dire, faut. Voilà. Faut, c'est pas, il n'y a pas marqué 400M. Non, il n'y a que 15M et ça suffit pour avoir ces 4 DVD. Donc, vous voyez que les gens, en plus, ils se font des prix en fonction des. Vous voyez, quand on sait qu'il faut un mois pour avoir un M, finalement, on y réfléchit à deux fois quand on va acheter. Donc, les prix s'adaptent aussi. Hein. Alors, voilà. Et je vais faire une autre. Il y a deux autres que je voulais. Ah, ouais. Il y a aussi celui-là. Coffret DVD Star Wars Trilogie. Hein, voilà. Les versions 4, 5 et 6 de Star Wars, c'est-à-dire les plus modernes, là, les 3 derniers, avant les 3 prochains, puisque ça va, ils vont faire encore une nouvelle série, là, 2-3. C'est la trilogie Star Wars, donc 25M. Voilà. Hein, donc ça permet de faire des conversions de M. Hein. On pourrait faire une moyenne de ces prix-là, avec les prix constatés dans le commerce, et on pourrait avoir un taux de conversion des M. Et puis, alors, enfin, il y a un dernier truc, faut absolument le citer. C'est quand même énorme. Je vois quand même une voiture AX Ten Essence, une vraie bagnole, hein, avec 4 roues et tout. Bon, elle est peut-être pas en super état, hein, mais enfin, elle est là. Et, 500M, voilà. On peut aussi s'acheter avec des M, on peut s'acheter une bagnole. Incroyable. Une bagnole AX Ten Essence pour 500M. Vous voyez, donc il y a des super... super proposition.
Il faut noter que le vendeur refuse l'envoi par la poste pour la voiture.
Oui, là, il va falloir, oui, sans doute, aller la chercher chez le propriétaire. Voilà, donc, voilà, il y a des trucs très, très sympas. Hein, donc, voilà, je dirais, parce que là, c'est pas mon compte, c'est celui d'un collègue que je regarde, je dirais à mon collègue d'envisager d'acheter tout ça. Donc... très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire, Mérom, sur l'expérience
de Money M? Oui, juste essayer de faire prendre conscience aux différentes communautés du libre, notamment, de l'importance de la monnaie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on ne s'occupe pas assez. Hein, en ce moment, je regarde beaucoup ce qui se passe autour de la neutralité du net et puis de l'initiative de Framasoft dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle Dégooglisons Internet.
Oui.
Alors, les gens, on voit bien que les gens sont très soucieux de la neutralité, de la réciprocité des pouvoirs dans ces domaines-là, sur Internet. Mais tant qu'on a une monnaie non libre, ça sert presque à rien, quoi. Enfin, c'est secondaire. Et donc je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ces communautés-là ne prennent pas à bras-le-corps le problème de la monnaie, parce qu'il me semble assez central, peut-être pas primordial, mais en tout cas central. Et voilà, il faut absolument que tous ceux qui soutiennent Framasoft, tous ceux qui œuvrent pour la neutralité du net... prennent conscience que la neutralité de la monnaie, la liberté de la monnaie, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et voilà, donc je pense qu'il faut le dire.
Oui, il faut le dire. Alors, je peux en parler un tout petit peu, évidemment. C'est que je pense, évidemment, c'est que... Bon, comme tu disais, c'est secondaire. Enfin, je dirais plutôt c'est des symptômes. C'est-à-dire que parce que la monnaie est non libre, par effet de levier, on peut mettre beaucoup de sous au départ dans Google... qui donne un avantage concurrentiel colossal, évidemment, si c'est moi qui ai les milliards, c'est moi qui embauche les ingénieurs et c'est pas vous. Et je peux prendre une avance technologique simplement parce que j'ai la monnaie en premier. Faut bien comprendre ça, parce que qu'est-ce que c'est que les bulles boursières, si ce n'est de l'injection massive de monnaie sur les entreprises dont on veut détenir la propriété pour être à la tête du monopole demain. Faut bien comprendre ce qui se passe, en fait, dans le monde de la finance. Il y a bien... à un moment donné aussi, la prise de pouvoir par l'effet de levier, y compris dans la monétisation des entreprises. Hein, donc la transformation de la monnaie créée par effet de levier dans un capital d'entreprise qui, in fine, va prendre le pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui des entreprises essentiellement américaines, d'ailleurs, qui ont beaucoup pris davantage. Alors qu'en Europe, on fonctionne un peu différemment. Mais en gros, comme on dit aussi, c'est... les banques ne prêtant qu'aux riches, la monnaie dette amplifie les écarts initiaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un écart initial, mais il est amplifié parce que vous avez un avantage économique, vous avez des revenus supérieurs, alors on va vous prêter plus, qui vous donne un avantage économique encore plus grand, etc. etc. Jusqu'au jour où l'écart est tellement grand que ça ne marche plus.
En fait, aujourd'hui, on a l'illusion que la monnaie est neutre, parce que on en fait ce qu'on en veut, effectivement. Si je veux acheter du pain ou bien des briques pour faire une maison, je fais exactement ce que je veux avec ma monnaie. On a l'impression pour ça que on est totalement libre et on n'arrête pas de parler de libéralisme, même en le critiquant souvent, mais alors que la monnaie n'est pas neutre du tout. Elle provient d'une source, et cette source, quelle est-elle? Comment la création monétaire se fait? Par qui? À quelle occasion? Est-ce que ça profite plus à certains qu'à d'autres? C'est ces questions-là qu'il faut absolument que les libristes se posent, parce qu'ils se les posent pour un logiciel. Ils vont se les poser à propos de Microsoft, de Google, de Facebook. Ils vont dire, c'est mes données, il ne faut pas qu'ils en fassent n'importe quoi. Mais la monnaie est elle aussi un outil dont il faut s'emparer et vérifier qu'elle est bien aussi libre qu'on a l'impression qu'elle est. Et en fait, elle ne l'est pas.
Oui, je crois que tu as donné le mot de la conclusion. J'aurais pas dit mieux. Donc, tu es devenu un relativiste accompli. Hein.
Voilà.
Bah écoute, merci Mérôme. Hein. Donc, on continue, bien sûr, de travailler hein, dans la direction des monnaies libres. Hein. Alors, il y a ce projet Monnaie, bien sûr, donc j'hésite pas à le citer. Alors évidemment, bon, mais je fais aussi la part de la structure informatique vis-à-vis d'autres projets logiciels, mais peu importe, c'est une monnaie libre, elle est plus libre que Bitcoin, malgré tout ce qu'on pourrait penser par ailleurs. Bitcoin est un niveau technologique bien sûr différent, mais la structure de la monnaie Bitcoin n'est pas du tout fondée sur l'homme, hein, c'est quand même autre chose. Et ce que tu disais, c'est que c'est pas parce qu'on a l'impression que la monnaie a certaines qualités que c'est le cas, il faut y réfléchir un peu plus profondément, et notamment, comme tu l'as dit en début d'émission, dans l'espace et aussi dans le temps. Qu'est-ce qui se passe dans le temps? Est-ce que les hommes peuvent être considérés de la même façon dans le temps? Ce qui n'est pas facile. Pas facile à voir, pas facile à concevoir, mais c'est possible. On peut y réfléchir. Donc, on arrive au bout de cette émission Monnaie Libre. Une nouvelle émission avec Mérôme. C'était la troisième, non, Mérôme, sur Monnaie Libre, je crois bien.
Non, c'était la deuxième pour ma part.
C'était la deuxième pour ta part, donc ben, il faudra que je t'invite plus souvent. Hein.
On a des choses à se dire apparemment encore.
Voilà, il y a toujours des choses à dire, il faut avancer dans la réflexion, dans la réalisation, etc.
Bon, en tout cas, je voulais te remercier de tout ce que tu fais sur Monnaie Libre en particulier, mais aussi sur pour ce que tu as fait au lancement de Monnaie M, et puis ce que tu fais encore aujourd'hui pour en faire la promotion. C'est quand même grâce à toi que j'ai compris le principe de la relativité monétaire et du coup t'es partie prenante sans le savoir ou en le sachant de la forme qu'a pris Monnaie M dès le début, hein, parce que c'est toi qui m'as incité à rendre le dividende universel relatif à la masse monétaire totale. Donc voilà, pour tout ça je te remercie grandement.
Ben merci à toi hein, pour faire avancer la réflexion sur les monnaies et surtout en faisant des choses et pas uniquement en parlant, ce qui est quand même un pas au-delà hein, de la réflexion. Moi je pense que du moment qu'on fait, on n'a plus besoin de faire référence à une justification même théorique. Bon ben voilà, on le fait, après ben, l'homme choisit, hein, voilà, il voit si ça lui convient ou si ça lui convient pas. Et à partir de là, ben, comme dirait l'autre, le sage se tait, hein. Celui qui sait ne parle pas. Merci Mérôme, merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure dans un nouveau podcast Monnaie Libre un peu plus tard. Merci, au revoir.
Au revoir.